À mesure que le temps passe, on comprend pourquoi l'axe occidental a tué Déby. Il s'agissait ni plus ni moins de désintégrer l'armée tchadienne, l'une des meilleures de l'Afrique de l'Ouest, certes, mais aussi de faire du Tchad une seconde Libye avec en toile de fond les préparations de guerre, rébellion et d'autres scénarios de déstabilisation contre les pays voisins et africains, le Mali, le Niger et le Burkina, ayant résisté à toute manipulation et d'instrumentalisation du genre. Ce 6 novembre, on apprend que François Bozizé, après avoir échoué à prendre le pouvoir par les armes en janvier, à la tête de la rébellion de la CPC, se trouve aujourd'hui à N'Djamena. D'après RFI, François Bozizé vit à la capitale tchadienne, N'Djamena, dans une villa. Il est accompagné de quelques éléments de sa garde rapprochée, précise un membre de son entourage. Il a quitté le sud du Tchad pour la capitale fin juin, début juillet selon cette même source. Il y attendrait selon lui les avancées du processus de médiation initié par l'Angola et la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Après des informations diffusées sur l'émergence des camps d'entraînement des terroristes séparatistes au Tchad, en voici le pays transformé en une base destinée à relancer des attaques contre l'État centrafricain qui, rappelons-le, a royalement repoussé l'offensive franco-otanienne contre la capitale et qui travaille actuellement à la consolidation de l'unité nationale en expulsant les agents occidentaux infiltrés via l'ONU et qui s'est mise à exporter son modèle jusqu'au Mali où un troisième coup d'État de Barkhane vient d'être déjoué. Les FACA ont fait leur preuve à l'aide de certains partenaires internationaux et des alliances intra-africaines. La Centrafrique a triomphé contre toute offensive, mais une chose est sûre, les FACA et les FAT ont fait leur preuve durant toutes ces dernières années. La France et l'ONU tentent toujours de dénigrer les armées de ces deux pays et de récupérer des bons stratégiques de ces pays pour les garder dans une déstabilisation sécuritaire dégradante, afin de conserver les leviers de pression et de soumission contre le gouvernement de Bangui. Mais l'Occident oublie que la population centrafricaine est unie à son gouvernement et que c'est cette union qui a gagné face aux tentatives de déstabilisation. L'Occident devrait également savoir que même si à travers le coup d'État qu'il a mené avec l'assassinat du président Déby, il arrive à dicter ses politiques à Mahamat Déby, mais ceci ne change rien à la volonté du peuple de préserver la souveraineté et l'intégrité de son pays. Il a fallu 2 ans pour que l'armée malienne se ressaisisse, parallèlement au succès des forces maliennes, à déjouer un coup d'État visiblement fomenté par l'ex-chef des services secrets, le colonel Kassoum Goïta. L'agent américain et français, l'armée tire sur les agents des services secrets allemands, déguisés en forces onusiennes. C'est de loin la première attaque pour la libération réelle du Mali. Le 3 novembre, des soldats allemands de la mission des Nations Unies au Malo ont riposté après avoir été la cible de tirs provenant d'une position tenue par les forces armées maliennes alors qu'ils s'approchaient du camp Castor après avoir mené une patrouille dans les environs. Cet incident, qui n'a pas fait de blessés, a fait l'objet d'une communication du commandement opérationnel de la Bundeswehr basée à Potsdam. Ce dernier a indiqué avoir contacté l'état-major des FAMA pour que celui-ci ouvre une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ces tirs. En outre, il est aussi question de prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que des soldats allemands et maliens s'échangent des tirs. En février 2019, une patrouille de la Bundeswehr envoyée à une cinquantaine de kilomètres de Gao pour aller récupérer un blindé belge de la MINUSMA avait été prise sous le feu d'un détachement des FAMA sur le chemin du retour. La présence de l'Allemagne au Mali ou dans n'importe quel pays ciblé par l'axe US-OTAN veut dire le renseignement allemand et donc la capacité de ce renseignement à appuyer les réseaux terroristes en termes d'information, à créer des cellules terroristes rampantes et donc de faire tout un travail d'espionnage. Cette attaque de l'armée malienne contre les agents des services secrets allemands La première après le double coup d'État au Mali prouve une chose. L'armée nationale se renforce et continue de mener son bonhomme de chemin dans sa lutte contre le terrorisme. Elle n'a pas froid aux yeux et en a marre des années d'occupation, de sous-estimation par ses forces occupantes qui, sous prétexte de soutien militaire et d'entraînement militaire, n'ont cessé de fournir des équipements épuisés, des entraînements qui ne servaient à rien et de dénigrer sans cesse la capacité de ses forces armées. Depuis que le Mali s'est tourné vers l'axe de l'Est, beaucoup de choses ont effectivement changé. Depuis plusieurs mois maintenant, les exactions de la France contre le Mali et même contre plusieurs autres pays d'Afrique sont mises au grand jour et leur rôle trouble de Paris ne trompe plus personne au Mali, d'où la volonté grandissante du Mali de se rapprocher davantage des pays de l'axe anti-occidental, à savoir l'Iran et la Russie. Il est important de rappeler que l'Iran se base surtout sur la fourniture de technologies et le partage de la connaissance dans le domaine du terrorisme, c'est-à-dire que la non-ingérence prime en plus du respect de la souveraineté et l'indépendance des pays, contrairement à beaucoup d'autres qui optent plutôt pour une mercenarisation, créant ainsi une dépendance dans le domaine sécuritaire. Le fait que la nation malienne, qui continue à se battre contre l'occupation étrangère, décide de choisir des alliés et qu'elle aille voir du côté de ses voisins puissants comme l'Algérie, puis du côté de la Russie et encore du côté de l'Iran, cela veut dire que le concept de la résistance s'est largement consolidé. La résistance malienne, l'alliance du peuple et de l'armée est passée à l'action, le chemin est tracé. L'Éthiopie fait peur aux Occidentaux, et c'est le moins qu'on puisse dire. Après des mois de pression internationale sur le gouvernement d'Addis Abeba, avec pour objectif de faire plonger le pays dans une guerre interrégionale, de provoquer une crise dans la corne de l'Afrique, de faire pression sur le pays et stopper la construction du barrage, alléguant que cela allait nuire aux intérêts économiques des voisins éthiopiens, l'axe est sautant. S'attaque directement au premier ministre éthiopien, et 3 jours après la suppression par Facebook d'un message du premier ministre Abiy Ahmed, Twitter a désactivé, samedi 6 novembre, son outil tendance dans le pays. Sur sa page personnelle, le premier ministre demandait aux citoyens de se mobiliser et de s'emparer de n'importe quelle arme pour combattre, renverser et enterrer les rebelles du TPLF. L'axe est sautant. Déchu et désespéré se lance donc dans la censure médiatique contre le premier ministre éthiopien. Un discours jugé trop extrême par Facebook, selon la plateforme californienne, Abiy Ahmed a violé ses politiques contre l'incitation et le soutien à la violence. Cette suppression a provoqué la furie du gouvernement éthiopien qui, dans un communiqué, a accusé le réseau social de travailler main dans la main avec les rebelles et qu'avec cette censure, le réseau social n'avait fait que montrer son vrai visage. Désormais, face au risque probable d'une guerre de milices, d'une possible bataille à Addis Abeba et de violences ethniques, toutes les mesures sont bonnes pour un axe US-OTAN qui, exclu du Sahel, déchu dans la côte et humilié en Centrafrique, pour tenter sa dernière chance dans la corne de l'Afrique. On censure les appels du président à une défense populaire contre les rebelles, mais on surgonfle les infos concernant les fameuses avancées des rebelles. Depuis le début du conflit, les médias mainstream se sont toujours montrés du côté des rebelles, mais surtout et à plusieurs reprises, les médias affirmaient que les rebelles avançaient lorsque notamment le gouvernement éthiopien avait déclaré le cessez-le-feu humanitaire, que les rebelles ont d'ailleurs bafoué, sans évidemment la moindre condamnation de la part des officiers occidentaux. Le gouvernement éthiopien a toujours dénoncé la propagande lancée par les médias occidentaux contre l'Éthiopie. Ces mêmes médias se basent seulement sur des rumeurs, et ce que leur fournissent les membres du groupe terroriste du TPLF et rien d'autre. De plus, le gouvernement a également affirmé qu'avec les nombreux échecs que les rebelles ont essuyés jusqu'à présent, des forces étrangères à l'Éthiopie se sont également joints aux rebelles pour déstabiliser le pays. Qui dit force en provenance de l'étranger, dit également de nouvelles armes et des munitions. C'est la seule manière que Washington a trouvée pour pouvoir réarmer les rebelles, pour qu'ils puissent tenir tête à l'armée fédérale. Mais il y a également un point essentiel à ne pas mettre de côté au niveau de la stratégie qu'elle est en train d'utiliser, le gouvernement éthiopien, pour venir à bout des rebelles, ou plutôt pour venir à bout des États-Unis. L'Association des professionnels soudanais a déclaré vendredi que les forces révolutionnaires avaient décidé de ne pas négocier ou de s'associer avec le Conseil militaire. Les forces révolutionnaires, avec toutes leurs composantes, ont arboré leur bannière contre toute négociation, marchandage ou partenariat avec le Conseil militaire, lit-on dans le communiqué de l'APS publié sur sa page Facebook. Et d'ajouter, nous réitérons que les dictats externes qui s'écartent de la volonté et des intérêts de notre peuple, ou les solutions d'en haut dictées pour une élite germée et isolée à l'intérieur, ne fonctionneront pas. L'association a indiqué que le peuple soudanais est actuellement engagé dans une bataille retardée avec le reste du système de sauvetage et déterminé qu'il ne devrait y avoir aucun compromis. Ceux qui recherchent un nouveau règlement qui ramènera les révolutionnaires sur le devant de la scène doivent comprendre que leurs efforts seront soufflés par les vents de la volonté de notre peuple opprimé, lit-on encore de même source. En vue d'augmenter le revenu des fonctionnaires retraités, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un nouveau régime de retraite par capitalisation. Dénommé la complémentaire, le nouveau projet a connu sa première action concrète sur le terrain avec l'adhésion des membres du corps préfectoral ivoirien. Lancé le mardi 2 novembre dernier au cours d'une cérémonie organisée à Abidjan, le nouveau régime de retraite complémentaire de la Côte d'Ivoire entame sa phase opérationnelle. Ce jeudi 5 novembre, le ministère ivoirien de l'Emploi et celui de l'Intérieur ont signé une convention de coopération destinée à faciliter le déploiement du nouvel outil. Dénommé la complémentaire, il s'agit d'un régime de retraite par capitalisation visant à permettre aux fonctionnaires ivoiriens à la retraite de bénéficier de revenus supérieurs à ceux qu'ils percevaient dans le cadre du régime actuel, dit de répartition. Le nouvel accord signé à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, vise donc à marquer l'adhésion collective des membres du corps préfectoral ivoirien au nouveau projet. Au Ghana, les petits exploitants endurent souvent des pertes post-récolte en raison du manque d'infrastructures de stockage. L'entreprise ghanéenne Agromix a décidé de transformer le surplus de denrées agricoles en produits à valeur ajoutée. Agromix, entreprise agroalimentaire au Ghana, s'est spécialisée dans la fabrication d'aliments industriels. Dans son usine, des produits alimentaires riches en vitamines et minéraux, obtenus à partir d'excédents des récoltes. Pour ce faire, l'entreprise se concentre sur les produits frais et les cultures céréalières, les transformant pour prolonger leur durée de vie sans ajouter de conservateurs ou d'additifs et réduisant ainsi les pertes alimentaires. Dans sa large gamme de produits, des poudres alimentaires, céréales instantanées et boissons en poudre vendues sous sa marque Nourimil. Les poudres de fruits sont utilisées dans les smoothies, comme substitut de sucre dans le porridge, incorporé dans les pâtisseries ou mélangé à de l'eau et de la glace pour une boisson au jus. Agromix a ajouté à sa gamme de produits des céréales anciennes comme le fonio, sorgho et millet. En janvier 2019, le Sénégal a signé un protocole d'accord avec le Centre national d'études spatiales de France et Ariane Group. Les premières retombées attendues initialement cette année ont accusé du retard, notamment à cause des aléas de la COVID-19. La République du Sénégal, à travers le ministère de l'Enseignement et de la Recherche et de l'Innovation, prévoit de lancer son tout premier satellite dans l'espace en 2023. C'est Gaïan Faye, le chef du laboratoire de télédétection appliquée de l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Cheikh Diop de Dakar, qui l'a dévoilé dans un entretien accordé au journal sénégalais Le Quotidien. C'était en marge du sommet Afrique-France, tenu le vendredi 8 octobre à Montpellier en France. Pour le lancement avec succès de son satellite, un nano-appareil destiné à l'observation de la Terre, Le Sénégal a tablé sur deux phases, le développement des ressources humaines et la construction de l'équipement. Pour la formation des ressources humaines, cela a commencé l'année dernière par l'envoi au Centre spatial de Montpellier de 3 étudiants issus des écoles d'ingénierie du Sénégal pour faire un master dans le domaine spatial, a déclaré Gaïane Faye.